Je vais te tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth. On va poursuivre notre série d'études sur Ruth. Joël, comment va Alphonse? Il est opéré un genou, c'est ça, hein? C'est ça. Mais je l'ai su malheureusement après son opération, donc c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'alerter l'Église en entier quand vous êtes hospitalisé, mais au moins appelez le pasteur pour qu'on puisse quand même, que je puisse quand même vous soutenir dans la prière. Si vous ne voulez pas de visite, c'est votre entière liberté, mais au moins que je puisse être dans le premier, au moins le premier à le savoir et non pas parmi les derniers. Et ça me permet de prier pour vous. Mais notre frère Alphonse, je ne le savais pas, donc je sais qu'Alphonse, il est très discret. Ah oui, ben, j'avais dit de me le confirmer la date, mais bon, il ne m'a pas rappelé, quoi. Et voilà. OK, on va aller dans Ruth, chapitre 3. Est-ce qu'il est toujours à l'hôpital? À la citadelle? Ruth, chapitre 3, verset 4, on va lire les versets 4 à 11. On va lire à partir du verset 1 pour rester dans le contexte. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été... » Est-ce que je peux fermer celui-là ici? Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, et Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu auras droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour cette parole que tu nous as laissée ce matin. Merci, Seigneur, que nous puissions voir Jésus-Christ à travers cette étude sur Ruth. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et être réceptif, Seigneur, à ton enseignement ce matin, que tu puisses bénir toute personne ici présente et que le nom de Jésus soit élevé. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors qu'on poursuit notre série sur Ruth, nous découvrons qu'elle ne se contente pas seulement, on avait vu les bénédictions la semaine passée, mais on s'aperçoit ce matin, à travers ce passage, que Ruth ne se contente pas des bénédictions qu'elle avait reçues dans le champ de Boaz, mais qu'elle voulait recevoir les bénédictions qui se trouvaient au pied de Boaz. Elle voulait plus que les bénédictions, elle voulait vivre une relation avec celui qui bénit. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Il y a une grande bénédiction à la croix, mais le Seigneur veut dépasser cette bénédiction qu'on a reçue à la croix, puisque c'est une grâce qu'il nous a fait. Il veut que nous puissions vivre une bénédiction avec celui qui bénit. Et celui qui bénit, eh bien, c'est Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Ruth ici voulait être plus qu'une servante pour Boaz. Elle voulait être l'épouse de Boaz. Et l'Église, c'est ce qu'elle représente. Elle représente l'épouse de Jésus-Christ. Alors, si on parle de concubinage, si on parle de serviteur, si on parle de mariage, c'est trois choses complètement différentes. Le mariage, entre autres, eh bien, c'est un engagement. C'est aussi synonyme de relation étroite et intime entre deux personnes. Et ici, eh bien, le texte nous rappelle que Ruth, elle voulait avoir cette relation intime et personnelle avec Boaz. Tout comme chaque chrétien de nouveau qui a fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ non seulement, je le répète, doit se contenter d'avoir cette relation à la croix, mais approfondir sa relation et sa communion avec Dieu. Au chapitre 3, nous retrouvons Ruth non pas dans le champ d'orge, mais dans l'aire de battage, qui nous rappelle symboliquement une vérité que nous retrouvons dans notre relation avec Christ. Eh bien, il est écrit, versets 4 à 6, que Naomi dit à Ruth, « Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds, couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Naomi demanda à Ruth de se rendre à l'aire de battage où Boaz battait l'orge. Habituellement, l'aire de battage se trouvait sur le sommet d'une colline, parce que c'était au sommet d'une colline que le vent était le plus efficace, en fait, pour chasser la balle du grain. On n'avait pas l'outillage d'aujourd'hui, et en fait, c'était à cet endroit, le plus élevé possible, qu'on battait finalement le grain dans les airs, et avec un appareil, on appelle ça le fléau, eh bien, la balle se dégageait du grain, le grain retombait par terre, et on récupérait le grain. Alors, on se rappelle, dans un premier temps, le grain était coupé dans les champs, il était transporté jusqu'à l'aire de battage, et là, on répandait les gerbes sur le sol, on faisait piétiner les gerbes par des bœufs, et là, eh bien, avec le fouet, avec ce genre de fouet, ce qu'on appelle le fléau, eh bien, on pouvait récupérer le grain. C'était pas seulement, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans notre culture occidentale, il est très difficile, quand on lit le contexte, d'essayer de pouvoir accepter ou pouvoir croire qu'une belle-mère va demander à sa belle-fille d'aller se coucher au pied d'un homme, quoi. Mais on va regarder, c'est important qu'on regarde le contexte culturel ce matin, pour ne pas être choqué, et voir que c'était tout à fait normal à l'époque, pour une bonne raison, parce que Boaz avait un droit de rachat sur Ruth et sur Naomi. Et c'était tout à fait, c'était la façon de faire à l'époque. Et ici, je tiens à rappeler que, en fait, l'aire de battage pour battre le grain était pas seulement un endroit pour battre le grain, pardon, mais aussi le temps pour festoyer pour l'abondante récolte qu'on a obtenue. Et je pense aussi que la fête de la moisson, le 27 octobre, c'est aussi l'occasion pour l'Église de se réunir et festoyer pour tout ce qu'elle a reçu du Seigneur pendant toute l'année, pour toutes les bénédictions. On pense aux nouvelles personnes qui ont accepté le Seigneur, on pense à d'autres personnes qui ont progressé dans leur foi, on pense aussi à Dieu qui nous a gardés en santé. Il y a des gens qui, malheureusement, souffrent dans leur corps, mais rappelons-nous que c'est aussi une grâce que Dieu nous fait d'être en santé. J'ai dit mercredi, je pense que c'est mercredi que j'ai dit à l'étude biblique, que peut-être ici, ça arrive que j'oublie, John Wesley dit, « Toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Dieu ne nous doit rien, frères et sœurs. On est dans une société tellement exigeante. On veut tout avoir et on exige d'avoir. Mais Dieu ne nous doit rien. Rappelons-nous cela. Dieu ne t'a pas obligé. Il n'y avait aucune dette envers sa créature pour le sauver. Et il nous a sauvés. Dieu n'est pas obligé de nous garder en santé. C'est une grâce qu'il nous fait. Ça veut pas dire que quand on est malade, c'est une disgrâce, que c'est un désaveu de Dieu, absolument pas. On est toujours dans ce corps mortel. Ce corps, il n'est pas racheté encore, il n'est pas glorifié. Et on subit les conséquences du péché qui environne notre création. Et notre corps, il vieillit. Malheureusement, il vieillit, il n'est pas éternel, il est mortel. Et il vieillit. Mais rappelons-nous que Dieu ne nous doit rien, que quand on est en santé à chaque jour, en tout cas moi, depuis que j'étais malade, à chaque jour, merci Seigneur pour la vie, la santé et la guérison que tu me donnes. Je ne l'avais jamais fait avant d'être malade. Et c'était de l'ingratitude de ma part. Parce que je pensais que la santé, c'était quelque chose d'acquis, quoi. Mais il n'y a rien d'acquis. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous garder en santé. Ça t'amène à ça. C'est vraiment une grâce, quoi. Dieu n'est pas obligé de pourvoir à vos besoins. Il s'est engagé à le faire à travers des promesses dans la parole, mais il ne nous doit rien. Et il est fidèle à ses promesses et il fait en sorte que ses enfants, de pourvoir aux besoins de ses enfants. Frères et sœurs, on baigne dans la grâce de Dieu. Mais on est un peuple tellement exigeant, genre une civilisation tellement exigeante, tellement exigeant, qu'on pense que la terre, le monde entier nous doit tout. En ce qui concerne Dieu, Dieu ne nous doit absolument rien. C'est une grâce en toute chose. Vous avez une espérance vivante ce matin? Vous n'avez rien fait pour la mériter. C'est une grâce que Dieu vous a fait, frères et sœurs. Et c'est des sujets de louange. Seigneur, j'étais perdu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour le chrétien, la chrétienne que tu as placée sur mon chemin, qui a osé ouvrir la bouche pour me proclamer l'évangile de Jésus-Christ. C'est une grâce. Ouais. À l'ère de battage, j'ai dit que c'était un temps pour festoyer, pour l'abondante récolte obtenue, mais c'était, il y avait toujours plusieurs personnes présentes à cet endroit. Et on chantait alors des psaumes, et on rendait grâce à Dieu pour la récolte obtenue. Lorsque la fête était terminée, les hommes dormaient autour du grain. Les aires de battage que nous rencontrons dans la Bible sont des endroits importants. Bon, j'ai pas le temps d'aller ce matin, mais dans 1 Chronique, chapitre 21-28, si vous avez l'occasion de regarder à la maison, 1 Chronique 21-28, on parle de l'aire de battage d'Onam, le Jébusien. C'est à Arava, à l'aire d'Arava, le Jébusien, que Dieu suspendit son jugement sur David suite au recensement qu'il avait ordonné. Hein, dans 2 Samuel 24-18, le péché de David, il est simple, hein, c'est que il a commandé un recensement, et ça symbolisait quoi, finalement? C'est que son recensement, il voulait compter le nombre de soldats qu'il avait, et le recensement, c'était simplement que David, en partant, eh bien, est allé chercher à s'appuyer sur les hommes qu'il avait plutôt que sur Dieu. C'était ça, finalement, son manquement. Hein? C'était ça, quand vous lisez le texte, c'est à peu près la seule explication possible, quoi. Ouais. C'est à ce même endroit qu'Abraham offrit son fils Isaac en sacrifice, et que plusieurs siècles après, Salomon construira la tente. Cette aire de battage était un lieu de sacrifice. Dans le cas de rite, l'aire de battage, frères et sœurs, correspond au calvaire, où nous voyons le Seigneur Jésus sacrifié sur l'aire de battage de Dieu. C'est à l'aire de battage que Ruth a manifesté son désir de vouloir commencer une relation avec Boaz, et c'est au calvaire que nous commençons, que nous pouvons manifester, pardon, notre désir de vouloir commencer une relation avec notre Boaz céleste. L'œuvre accomplie à la croix, au calvaire, pardon, est le fondement même de notre relation personnelle avec Jésus-Christ et de notre communion intime avec lui. C'est pour ça que dans l'Église, le message de la croix doit rester central. Il doit rester central. Un très beau message de A.W. Tozer qui parle du message de la fausse croix et du message de la vraie croix. Il n'y a pas grand-chose de différent, quoi. Il n'y a pas grand-chose de différent. Et la croix, ça doit être quelque chose qui est vivant dans notre vie. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour qu'on puisse revivre, pas vivre, mais revivre à travers une nouvelle vie. C'est ça qui est magnifique. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Il est écrit au verset 7 que Boaz a mangé et bu. Boaz mangea et bu. Le verset décrit comment s'est déroulé le banquet et la fête en question. Jésus dit, lui, dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a dit que ce que Dieu voulait qu'il fasse, Jésus a dit qu'il a accompli le travail que Dieu voulait qu'il fasse. Il a dit que Dieu l'avait envoyé pour faire cette œuvre, et cette œuvre, il l'a accompli au calvaire. Jésus a mangé cette nourriture et il a bu dans cette coupe amère. Il s'est rendu au calvaire à l'ère de battage de Dieu et il a payé le prix afin que les hommes puissent avoir une relation personnelle et une communion intime avec le Père. Ce qui est central dans le mouvement évangélique, chez les baptistes, comme dans toutes les branches évangéliques, c'est pas Dieu qui est central, c'est Jésus-Christ qui est central. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Avec Dieu, n'importe qui peut faire son Dieu, peut définir son Dieu, peut décrire le Dieu à sa façon. Mais c'est Jésus-Christ qui doit rester central dans nos milieux évangéliques. Le passage ne se contente pas ici de dire que Boaz était en train de manger et boire, il est aussi écrit qu'il avait le cœur joyeux. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux. Frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Et en mourant sur cette croix, frères et sœurs, je le rappelle ce matin, Christ a subi le jugement prononcé contre nous pour nos péchés, mais nous pouvons seulement imaginer la joie qui était dans le cœur de notre Sauveur, lorsqu'il a vu qu'il venait d'ouvrir la porte aux hommes et aux femmes de commencer une relation avec Dieu et de vivre en communion avec lui. Non seulement le passage nous dit que Boaz mangeait, buvait et avait le cœur joyeux, mais au verset 7, la dernière partie du verset 7, il est écrit qu'il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Le travail prévu pour la journée avait été fait et il se reposait maintenant de son travail. Il en est de même pour Jésus. Il a fait terminer l'œuvre que le Père avait demandé de faire. Quand il eut pris le vinaigre, nous dit le texte, il dit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Déclare ainsi que le plan du Père pour sauver l'homme était accompli. Et à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie sur l'aire de battage de Dieu, le calvaire est lourd de sens pour chaque chrétien, pour chaque croyant. C'est à cet endroit que nous pouvons commencer une relation profonde avec Christ et que nous pouvons être une communion, être en communion avec lui. À cet endroit, nous voyons que Boaz, notre Boaz céleste, pardon, eh bien, a mangé et a bu ce qu'il devait prendre pour que nous puissions être restaurés et que nous puissions avoir l'assurance d'être ressuscités pour entrer dans le paradis un jour. Le verset 3, le verset 4 nous dit ensuite, Naomi va demander à Ruth d'observer le lieu où il se couche. Et le mot observer ici dans le grec, dans l'hébreu, signifie découvrir par soi-même ou se rappeler. Elle était en train de dire à Ruth, d'observer Boaz, afin de découvrir l'endroit où il irait se coucher. Les chrétiens, frères et sœurs, d'eux-mêmes sont appelés à observer, à découvrir par eux-mêmes l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ s'est rendu sur l'aire de battage de Dieu. Nous devrions faire des efforts pour nous rappeler de l'œuvre que notre Seigneur a accomplie sur la croix. Cet endroit devrait être un endroit important et marquant pour nous. Le calvaire devrait représenter plus qu'un événement historique pour nous. Il devrait correspondre à une rencontre personnelle avec le Sauveur Jésus-Christ. Jésus ne doit pas être se limiter à être seulement un nom pour nous. Jésus-Christ devrait être une personne pour nous. Il devrait être une personne vivante. Une personne qui est capable d'accomplir encore des miracles dans nos vies aujourd'hui. Vous avez des fardeaux ce matin. Vous avez de la tristesse pour toutes sortes de situations que vous vivez. Apportez ça aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Comme Boaz, elle est venue se placer aux pieds. Comme Ruth, elle est venue se placer aux pieds de Boaz. Elle avait des choses à lui demander. Elle avait des choses à lui démontrer. Et c'est ce qu'elle a fait. Le calvaire devrait être un endroit où nous devrions garder constamment nos pensées captives sur Jésus. Parce que celui qui s'est rendu sur cette croix a marqué notre vie et transformé notre cœur. Et ce matin, si je vous demandais tous de vous lever et de partager ensemble, eh bien, ce que Christ, en quoi Christ a marqué votre vie et en quoi Christ a transformé votre cœur, je suis persuadé que vous seriez tous capables de prononcer une parole édifiante, une parole encourageante. La parole nous dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On pourrait déjà louer et dire, Seigneur, j'étais perdu et tu m'as trouvé, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir trouvé. Merci, Seigneur, parce que je suis un héritier. Merci, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Merci, Seigneur, parce que je fais partie de ton Église, l'Institut biblique. L'Église, c'est l'Institut biblique qui nous forme. Avant d'envoyer nos jeunes dans un institut biblique ou dans une faculté, je leur dis toujours, prenez le temps de passer quelques années dans l'Église. L'Église, c'est la meilleure institut biblique à laquelle vous pouvez fréquenter. Si vous passez à travers l'Église, vous passez à travers n'importe quoi. Amen? Oui. Parce que l'Église, ce n'est pas le paradis. L'Église est composée d'hommes et de femmes, différentes personnalités, qui pensent différemment. Et le Seigneur, il joue avec ça, il jongle avec ça, quoi. Il y a une seule chose qui doit nous rassembler, c'est Jésus-Christ. L'Église, eh bien, elle est appelée à traverser les temps et à passer l'éternité dans la présence du Seigneur. Tous ceux qui sont des pierres vivantes, qui s'appuient sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, toutes ces pierres-là qui sont soutenues par Jésus, eh bien, passeront l'éternité dans sa présence. Le calvaire devrait être plus qu'une puissance, devrait être plus qu'un fait parmi tant d'autres dans l'histoire, il devrait être une puissance dans nos cœurs, il devrait saisir nos cœurs, contrôler notre volonté, consumer nos pensées et diriger notre marche de tous les jours, afin que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, « Tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je ne serai, moi aussi, ramené de la mort à la vie. » Le monde pouvait observer l'œuvre que Christ avait accomplie à la croix dans le cœur de Paul, et il devrait en être de même pour chacun de nous, parce que c'est à cet endroit que le Sauveur venu du ciel a donné une espérance à tous les pécheurs, que leurs péchés pouvaient être pardonnés et qu'ils pouvaient revivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et souvent, quand on a difficulté à comprendre le mystère de la croix, on est en train d'étudier quelque chose le mercredi soir, c'est le mot « avocat ». Dans 1 Jean, chapitre 2, on parle de l'avocat. Jésus est notre avocat. Et quand on comprend vraiment le sens du mot « avocat » au point de vue juridique et que le transpose après au point de vue spirituel, eh bien, écoutez, on est condamné par la loi de Dieu. On est démunis seul face à Dieu, face à ce juste juge, nous dit la parole, à Abraham, chapitre 18, dans Genèse. Et Dieu nous pourvoit d'office un avocat. Ouais. Maintenant, je tiens à vous rappeler une chose. Pour ceux qui n'ont jamais allé devant les tribunaux, c'est peut-être difficile à comprendre. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. C'est celui qui a besoin d'un avocat qui fait le premier pas pour en choisir un. Christ est notre avocat, c'est à nous à faire le premier pas. Il l'a déjà fait à la croix, en tant que sauveur. Pour qu'un avocat puisse nous défendre, il doit être qualifié. Christ est le seul avocat qualifié devant Dieu pour défendre la cause des pécheurs. Et nous avons cette assurance, nous dit le texte dans 1 Jean, chapitre 2, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause, qui avait accepté de la défendre, cette cause-là. Et il n'est pas gêné de se présenter devant le Père parce qu'il est qualifié, il a été reconnu comme étant qualifié, et il est le seul. Les frères et sœurs, on peut avoir une assurance qu'il n'est pas là pour nous accuser. Il n'est pas l'accusateur des frères, au contraire, il est là pour défendre la cause de ses frères, puisque Jésus-Christ n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre frère. Amen. Ouais. Je me souviendrai toute ma vie de cette rencontre avec Jésus-Christ, parce que c'est à cet endroit que j'ai ouvert mon cœur à Christ. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment où j'ai accepté Jésus-Christ, car c'est à cet endroit que je réalisais que Dieu avait donné son Fils pour moi et que je suis devenu son enfant. Versets 4 à 7, il est écrit, « Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds, couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impudique ou d'indécent dans ce qui se passe ici. Selon la coutume juive, Ruth réclamait de Boaz son droit de rachat. À travers cette démarche, elle démontrait qu'elle voulait être la femme de Boaz. Elle voulait que sa relation avec Boaz soit la plus proche possible. Quelqu'un demanda un jour au prédicateur et pasteur anglais, J. Campbell Morgan, ce que représentait Christ dans sa vie. Il a levé sa main et il a dit ceci, « Il est aussi réel dans ma vie que la peau qui recouvre ma main. » Frères et sœurs, aspirez-vous à ce que votre relation avec Jésus-Christ soit la plus proche possible. Y a-t-il ce matin une telle proximité, une telle intimité qu'un croyant peut vivre avec Christ? J'espère que c'est votre cas ce matin. J'espère que c'est votre cas ce matin parce que c'est le désir le plus profond du cœur de Dieu, de vivre cette relation intense avec Jésus-Christ. Et c'est béni que Dieu ne fasse pas de favoritisme. La Bible nous dit dans l'Évangile de Jean, c'est les paroles de Jésus, Dieu nous aime autant qu'il aime Jésus. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Moi, ce verset-là m'a bouleversé, moi. Tu m'aimes autant que tu les aimes. C'est incroyable, quoi. Quand vous réfléchissez à ça, c'est pas « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as quand même gardé au-dessus. » Et puis eux, ils sont quand même inférieurs parce que « Seigneur, c'est des pécheurs, rappelle-toi-en, ils ont désobéi à ta loi dans le péché. » Christ dit « Non, tu les aimes comme tu m'as aimé. » C'est incroyable ce passage-là. Si on commence à le travailler, quoi. Même à ce niveau-là, ça nous rappelle que Dieu, c'est pas sur la base de notre intelligence qu'il nous aime. C'est pas sur la base de nos qualités qu'il nous apprécie. C'est à travers ce que Christ a accompli à la croix. Et c'est vrai qu'on devient un en Jésus-Christ et que le Père est capable de nous aimer autant qu'il aime son Fils Jésus. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises des références au droit de rachat, donc je n'entrerai pas là-dedans ce matin, on va regarder ça un peu plus tard. La loi du parent est une étude fascinante à faire dans la Bible, elle a été établie par Dieu et elle tournait surtout autour de deux choses. D'abord, la division du pays. Rapidement, hein? Je suis obligé de parler du contexte ce matin pour qu'on puisse comprendre la prochaine prédication. Lorsque Dieu donne le pays à Israël, c'est Dieu lui-même qui distribue et qui attribue une portion du pays à chacune des 12 tribus d'Israël. Chaque famille appartenant à une tribu a reçu une parcelle de terre au sein de cette portion du pays donnée par Dieu. Ces parcelles de terre devaient être conservées dans les familles de cette tribu et transmises à leurs héritiers. Et elles ne pouvaient pas être vendues aux membres de d'autres tribus. À titre d'exemple, les héritiers de Lévi ne pouvaient pas vendre leur terre aux héritiers de Benjamin. Chaque parcelle de terre devait demeurer dans chaque tribu. Pensons à quelqu'un qui se trouvait dans une situation financière difficile, suite à une mauvaise récolte et qu'il avait besoin d'argent. À ce moment-là, il pouvait hypothéquer sa terre, mais il ne perdait pas ses droits sur sa terre. Il y avait deux façons pour lui de récupérer sa terre. Et il y a une des deux façons qu'on va le voir, c'est important pour la suite du message ici. Pardon. Il y avait l'année du jubilé qui avait lieu tous les 50 ans. Pendant l'année du jubilé, chaque hypothèque était annulée et la terre retournait à son propriétaire d'origine. À travers cette loi, Dieu permettait à la famille et à la tribu de conserver sa terre. Deuxièmement, quelqu'un pouvait aussi récupérer sa terre par le parent du moyen rédempteur. Un pauvre parent pouvait racheter la terre en payant l'hypothèque. Et on retrouve cette loi dans le livre du Lévitique, que je ne lirai pas ce matin. Dans le cas des veuves, comme Naomi et Ruth, la loi prévoyait même quelque chose de plus intéressant. Et on voit que Dieu a une compassion particulière pour la veuve et l'orphelin. Il a prévu des choses très précises dans sa loi pour ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien à l'époque pour les protéger. Rien. Et on peut aller même à cette époque, on peut aller même au 18e siècle, 19e siècle, parce que lorsque Georges Müller a voulu partir en mission, et que le comité missionnaire lui a refusé en lui disant « Écoute, t'es pas appelé à aller en mission », eh bien, il est parti tout penaud, il a longé les trottoirs, il est passé, il en voulait au comité missionnaire parce qu'il ne le comprenait pas, lui se voyait appelé à aller en mission, et il est passé le long d'un pénitencier, il a travaillé de clôture, il a vu des enfants de 8-9 ans qui étaient emprisonnés avec des voleurs, avec des tueurs, des meurtriers, parce qu'à cette époque, il n'existait pas d'orphelinat. Et il y avait un enfant qui s'est approché de lui à travers la grille, les yeux en larmes, le cœur vraiment désespéré. Et le cœur de Georges Müller a été touché. Et là, il y a eu cette vision de mettre sur pied les orphelinats à Bristol, en Angleterre. Même jusqu'au 19e siècle, les orphelins, ça valait pas grand-chose pour la société. Il faut se rappeler qu'à cette période-là, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de chômage. La veuve, elle était livrée à elle-même, quoi. Mais Dieu prévoit quelque chose déjà. Déjà à travers sa loi, Dieu prévoit déjà quelque chose parmi son peuple pour protéger la veuve et l'orphelin. Et dans le cas des veuves, comme Naomi et Ruth, eh bien, il est écrit dans Deutéronome 25, chapitre 25, versets 5 à 6, pour ceux qui ont leur Bible. Maintenant, vous cherchez. On va terminer l'histoire de Georges Müller. Il a commencé avec quelques orphelins. Il a terminé sa vie avec 1200 orphelins en comptant uniquement sur la foi pour recevoir de Dieu les dons nécessaires pour pourvoir à leurs besoins. 1200 enfants. Et lui qui avait toujours voulu évangéliser, eh bien Dieu, à l'âge de 68 ans, il lui a dit, écoute, maintenant, tu es appelé à faire le tour du monde pour évangéliser. Il a 68 ans. Il est parti l'évangéliser. Et si ma mémoire est bonne, il est mort à 93 ans, plein de vigueur et plein de force. 93 ans. Lévitique, chapitre Deutéronome 25, 5, 6. Lorsque deux frères vivent ensemble sur la même terre et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, sa veuve ne doit pas épouser quelqu'un d'extérieur à sa famille. C'est son beau-frère qui exercera son devoir envers elle en le prenant pour épouse. Le premier-né qu'elle mettra au monde, cela alors sera alors considéré comme le fils de celui qui est mort, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Dans le cas d'un frère célibataire ou dans le cas où il n'y avait aucun frère, le parent célibataire le plus proche était obligé, selon la loi, de marier la veuve et de prendre soin d'elle. En agissant ainsi, la famille gardait la terre. Et à cause de cette loi, la veuve avait tous les droits de réclamer d'être rachetée par les parents le plus près d'elle. C'est exactement ce que Ruth est en train de faire ici. Voilà pourquoi c'est pas déplacé. Elle obéit exactement à la loi, quoi. Naomi est en train de renseigner à Ruth, ce que la loi lui donne le droit. Et elle va utiliser ce privilège-là. Boaz est un proche parent de son mari décédé. Et en tant que veuve, lorsqu'elle se couche à ses pieds, elle était en train de dire, tu es un proche parent, je réclame mon privilège en tant que veuve. En d'autres mots, elle était en train de dire, Boaz, je veux que tu m'épouses. Ruth exprime ici non seulement le désir d'avoir une relation intime avec Boaz, mais elle réclame son privilège d'avoir cette relation. Frères et sœurs, il n'y a que les enfants de Dieu qui ont ce privilège d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Utilisons ce privilège que nous avons. Il y a tellement de religions dans le monde qui essayent d'entrer en relation avec Dieu. Et ça ne dépasse pas le plafond. Et on a ce privilège extraordinaire, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ pour dire à sa créature, écoute, maintenant que tu m'as accepté, voici le droit que tu as, voici le privilège que tu as. Tu as le privilège de parler directement avec le Dieu qui a créé toutes choses. On a ce privilège. C'est extraordinaire. On a ce privilège de parler avec Dieu comme on parle avec notre mari, comme on parle avec nos femmes. On a ce privilège d'exiger les promesses qui sont dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. C'est extraordinaire. Il y a des choses qu'on peut demander à notre mari, il y a des choses qu'on peut demander à nos femmes, il y a des choses qu'on peut pas demander à des étrangers. Et c'est la même chose avec Dieu. On n'est pas des étrangers pour Dieu. On est ses enfants. On a des droits. Les droits qui incombent aux enfants de Dieu. C'est merveilleux quand on pense à ça. Voilà pourquoi on doit s'amasser des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne peuvent rien faire. Ouais. Versets 8 et 9, rapidement. Il est écrit au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Boaz était en train de dormir en ayant la tête vers l'aire de battage. Ruth vient vers lui en douceur afin de ne pas le réveiller. Découvre ses pieds et se couche à ses pieds à côté de lui. Au milieu de la nuit, le texte nous dit, Boaz se réveille. Il est effrayé de trouver une femme couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Remarquez ce que Ruth dit. Je suis Ruth, verset 9, je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante. Car tu as droit de rachat puisque tu es un proche parent. Elle dit à Boaz, je te réclame comme rédempteur. Hey, je te réclame comme rédempteur. Étends ton manteau sur moi pour montrer que tu acceptes. Montre-moi que par ce signe, tu me permets d'être ta femme. Et le mot « elle » ici, hein, dans d'autres versions, le mot « elle » signifie littéralement « prends-moi sous ta protection ». Elle était en train de dire « prends-moi sur ton aile ». Psaume 91, c'est exactement ce que David dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, verset 37, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il est en train de dire combien de fois j'ai voulu vous rassembler pour vous protéger, mais vous avez refusé. Et on utilise souvent ce passage pour dire que Jésus compare Dieu à une mère, mais c'est pas le cas. Dieu n'est pas une mère. Il demeure un père qui prend soin de ses enfants. Le seul endroit dans toute la Bible où on parle, qu'on compare c'est Paul qui se compare comme une mère envers les Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et 7. Et ça fait pas de Paul une mère pour autant, quoi. Mais c'est l'idée de protection. C'est l'idée d'attachement qui se trouve derrière ça. Il est écrit que Boaz lui répondit, sois béni de l'Éternel, en 10 et 11. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Et en d'autres mots, qu'est-ce que Boaz est en train de dire ici? Oui, c'est vrai, je t'ai aimé à partir du moment où je t'ai vu dans le champ. Il n'y a rien que je désire le plus que tu deviennes ma femme. Oui, je serai ton parent rédempteur quand je veux faire de toi mon épouse. Et frères et sœurs, on peut faire une belle application avec le Seigneur Jésus là-dessus. Une très, très belle application. Le Seigneur, il nous dit dans sa parole, je t'ai aimé avant même que tu viennes au monde. Je t'ai façonné dans le ventre de ta mère. Tu étais dans mes pensées depuis toute éternité. Je t'ai toujours aimé, je t'aime d'un amour éternel, nous dit-il à travers les prophètes. C'est extraordinaire. Il n'y a rien que le Seigneur désire le plus que nous devenions son épouse. que nous devenions son enfant. Ça aussi, c'est merveilleux. Et il veut aussi être notre rédempteur. C'est la prière de Ruth. C'est la prière de Boaz, pardon. Oui, je serai ton parent rédempteur car je veux faire de toi mon épouse. Et c'est exactement ce que Christ est venu faire ici. Oui, je serai votre rédempteur parce que je veux faire de vous mon épouse. Je veux que vous fassiez partie de mon Église. Je veux que vous intégriez mon royaume. Je veux qu'on passe l'éternité ensemble. Amen. C'est des belles promesses. Ruth a revendiqué, pardon, le droit qui lui revenait et elle a reçu, si vous voulez, la promesse que Boaz ferait tout ce qui est nécessaire. Frères et sœurs, nous avons non seulement le privilège d'avoir une relation bénie avec Christ, mais il nous garantit qu'il nous permettra de profiter de cette relation privilégiée à travers les promesses qu'il nous fait dans sa parole. Et on a besoin, on en parle régulièrement à l'étude biblique du mercredi soir, les promesses de Dieu. On peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles sont sûres. Et ce que Dieu promet, il l'accomplit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Jésus dit dans Matthieu. Heureux ceux qui sont dans la tristesse, car ils seront consolés, dit Jésus. Frères et sœurs, Jésus dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il attend pour étendre son aile sur vous. Voulez-vous réclamer ce privilège ce matin? » Dis, Seigneur, dans une prière, Seigneur, je veux me placer sous ton aile ce matin. Je veux me placer sous ta protection. Je suis sorti de ton aile ce matin, mais je veux retourner sous ton aile pour bénéficier de ta protection. Et comme la psalmiste dit, écoute, sous ton aile, tu es mon refuge, Seigneur. Que nous puissions, à travers ce passage ce matin, qui était quand même une grande partie, qui était culturelle, nous rappeler que finalement, la présence de Jésus, elle est partout dans le livre de Ruth. Ruth avait réclamé un parent rédempteur. Dieu nous a envoyé un parent rédempteur qui veut se révéler à chacun, à chaque personne, à chaque créature sur cette terre, pour que celui-ci fasse partie de sa famille. Que nous puissions continuer à prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de ceux et celles qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, afin que celui-ci soit non seulement un rédempteur pour eux, mais un compagnon qui les suit jour après jour jusqu'à ce qu'ils reviennent. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique.